matin, je veux partager avec vous la dimension de offrir et obéir nous fait voir la vision. Vous savez, ce n'est pas tout de voir, d'avoir une vision, de comprendre ce que Dieu veut faire dans l'avenir, mais en fait, ce n'est pas parce que nous avons une vision, que Dieu dépose dans nos cœurs une vision, que nécessairement nous allons la voir s'accomplir. J'ai dit encore ce matin qu'il y a le mélange ou le lien entre Dieu et l'homme, l'être humain. Alléluia, entre Dieu et la femme, l'être humain. En tant que du lien pour saisir et aller et entrer dans ce que Dieu a pour chacun d'entre nous, que ce soit pour notre vie personnelle, pour nos familles, pour les personnes qui nous entourent. Et ce matin, je veux attirer notre attention probablement sur un texte, des textes qu'on connaît bien par cœur, qu'on connaît bien, et que j'aimerais nous arrêter et tirer quelques leçons ensemble par rapport à offrir et obéir. Je crois que pour être capable de voir et d'entrer dans ce que Dieu a pour nous, dans la vision, dans les plans de ce que Dieu a pour nous, on peut avoir une vision aussi large, une vision aussi grande, mais que sert-il à cette vision d'être aussi grande et aussi large si on la voit pas s'accomplir ou si on n'y marche pas dans cette vision-là de ce que Dieu a pour chacun d'entre nous? Bien sûr, la Bible déclare que Dieu a des projets de paix et non de malheur que Dieu a formés afin de donner un avenir et une espérance. Mais à travers tout ça, nous devons être de ceux qui veulent marcher dans ce que Dieu a pour nous. Dans les situations de nos vies, alléluia, on doit être capable de mettre les choses en place. Quelqu'un dit ceci, en fait, c'est John Maxwell qui a dit ceci. Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste attend que le vent tourne. Le leader ajuste ses voiles. Et à l'intérieur de nos vies, nous devons ajuster nos voiles dans la direction que Dieu a pour nous. Et l'une des façons de le faire, c'est d'être prêt à offrir et à obéir. En Genèse, chapitre 11, et ce matin, on va regarder un peu la vie d'Abraham, des textes qu'on connaît bien, de la sortie de Charan pour aller vers la terre promise, ou encore le fait de ce que Dieu va demander à Abraham d'offrir son fils. Lorsqu'on regarde, alléluia, il nous est dit dans Genèse, chapitre 11, verset 31, ça dit, Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans, et Térakh mourut à Charan. Le texte nous dit que Térakh, avec Abraham et Lot et les gens qui les côtoyaient de près, sont sortis d'Ur en Chaldée pour se rendre en Canaan, mais ils ont fait un arrêt à Charan. Et il semble que Charan est devenu leur lieu d'habitation. Et c'est devenu leur lieu où ils ont habité. Ça semblait être l'endroit où ils étaient, ça suffisait à ce qu'ils étaient ou à leurs besoins. Mais à un moment donné, alléluia, le texte dit que Dieu va demander à Abraham de quitter Charan pour aller dans la terre promise, de cette terre que Dieu donnerait, lui donnerait à lui, que Dieu donnerait aux générations qui sortiraient de lui. Vous savez, c'est intéressant lorsqu'on regarde et lorsqu'on parle d'offrir, lorsqu'on pense que Dieu va demander à Abraham de quitter Charan pour se rendre dans la terre promise, on a l'impression à travers le texte que si on ne s'y arrête pas et de regarder un peu plus loin, de faire certains calculs, on peut penser que à ce moment-là, c'était facile de quitter Charan parce que c'était une nouvelle vie qui pouvait prendre place pour Abraham et pour sa famille. On peut avoir même l'impression que son père était mort, mais la réalité, c'est que le père d'Abraham n'était pas mort lorsqu'Abraham a quitté Charan. En fait, le texte dit, alléluia, que lorsque au verset 4, ça dit « Abraham sortit » comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alors, il avait 75 ans lorsqu'il est parti, il est sorti de Charan. Mais la réalité nous donne de voir que le moment où Abraham, ou l'âge qu'Abraham avait lorsqu'il son père est parti, il avait 70 ans à la naissance d'Abraham. Il y avait 70 ans plus tôt. Alors, lorsqu'on regarde tout le texte, qu'on fait les calculs, on comprend que Térakh avait 145 ans quand Abraham a quitté Charan. Ce qui veut dire, alléluia, que le père d'Abraham n'était pas mort lorsqu'Abraham a quitté Charan. Alors, il a laissé sa famille, il a laissé son père, les gens qui l'entouraient, pour partir et se rendre à Charan, parce que le texte dit que Térakh est mort à l'âge de 205 ans. Alors, on peut penser d'une façon assez claire que pendant 60 ans, Térakh a vécu à Charan après le départ d'Abraham. Alors, Dieu est en train d'amener dans la vie d'Abraham, alléluia, d'amener dans la vie d'Abraham une dimension de quitter sa propre famille. Et lorsqu'on veut dire ça, bien sûr, il y a quelque chose qui va rester. J'ai pas le temps de tout le faire ce matin, mais j'aurais pu sortir des textes avec vous qui nous donnent de voir où Abraham, alors qu'il va être en terre promise, va parler de sa patrie encore de Charan. Il va même envoyer pour chercher la femme de son fils. Mais tout simplement pour dire ceci, alléluia, qu'on a l'impression que lorsque Dieu va demander à Abraham, c'était une nouvelle étape qui prenait place dans sa vie. Mais c'était plus qu'une une nouvelle étape. C'était un abandon que Dieu était en train de lui demander. C'était dans une dimension de renoncement et de quitter quelque chose, de mettre en place. Et je vais vous dire qu'Abraham avait appris à l'intérieur de sa vie être capable de mettre sur l'autel de Dieu afin de marcher dans ce que Dieu avait pour lui. Le texte ne nous semble pas nous laisser voir à aucun endroit qu'Abraham était malheureux à Charan, qu'il ne s'attendait pas bien avec sa famille à Charan, que la chicane était prise avec son père ou les gens qui l'entouraient à Charan. Mais le texte nous donne plutôt de voir que Dieu va amener Abraham à un renoncement. Dans Genèse chapitre 12, les versets 1 et les versets suivants, dit ceci d'abord au verset 2, ça dit « Je verrai de toi une grande nation » et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais le verset 4 nous dit qu'à travers tout ça, c'est une superbe promesse. Probablement que chacun d'entre nous voudrait avoir la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Mais probablement que pas tout le monde voudrait être prêt à renoncer ce à quoi Abraham va renoncer. Nous voulons tous voir, alléluia, sur la montagne Dieu pour voir, mais peu de personnes sont prêtes à sacrifier ce qu'Abraham a sacrifié et ont été prêts à faire sur cette montagne. Nous voulons souvent les bénédictions, nous voulons souvent ce que Dieu a pour nous, ce que le Seigneur veut accomplir. Et à travers, jusqu'à ce moment-là, Térakh et avec sa famille et Abraham inclus, alléluia, était là. Il y avait une dimension de ce que Dieu avait entrepris. Et dans le verset 1, Genèse 12, 1, ça dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. » Et dans l'idée ici du texte, de « va-t'en de ta patrie ou de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai », il y a deux dimensions importantes dans ce texte. D'abord, dans l'hébreu, il y a la dimension de laisser en arrière pour entrer. La deuxième, c'est la dimension de marcher ou d'aller vers quelque chose, d'aller vers l'endroit de ce que Dieu avait. Il n'y avait pas seulement, regardez bien, en fait, ma pensée est celle-ci, la pensée du texte est celle-ci. Tu ne dois pas juste partir pour t'en aller n'importe où. Tu vas quitter, tu vas renoncer à quelque chose, mais tu vas aller pas n'importe où, pas n'importe quel endroit, pas dans n'importe quelle direction, mais dans l'endroit que je te montrerai, que je vais te diriger. Le texte parle de quitter, de laisser en arrière, mais le texte parle aussi de marcher vers ce qui était une destination. En fait, ce qui était n'est plus dans la vie d'Abraham. Ce qui était dans la vie d'Abraham avec sa famille n'est plus. Dieu ne lui demande pas seulement de laisser, là. On ne parle pas d'aimer moins, on ne parle pas de ce qu'Abraham ne devait plus aimer sa famille. mais plutôt d'entrer dans ce que Dieu a pour lui. On a besoin de réaliser dans le texte, lorsque c'était là, ça dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. » Ça, c'était ce qui était, mais qui, à partir de ce jour-là, n'est plus. Et des fois, on voudrait continuer à rester dans ce qu'on était, dans notre vie, dans nos affaires passées, dans ce qu'on aimerait vivre. Mais la réalité, c'est que Dieu veut nous amener dans la dimension du plan, de la vision élargie de ce qu'il a pour nos vies. Mais c'est souvent pas possible d'y entrer sans être prêt à sacrifier ou à renoncer. Et pourtant, le texte nous dit que, bien qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas tout vu, il va quitter sans tout savoir. Aller vers ce que Dieu a pour nous, ce n'est pas nécessairement tout savoir. L'être humain, c'est sécurisant de tout savoir. Mais la réalité, c'est que Dieu va nous amener dans des dimensions où on ne saura pas tout, où on ne sera pas capable de décrire tout parfaitement. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 8, ça dit, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu dont il devait recevoir en héritage. » Et ça dit, « Et il partit sans savoir où il allait. » Il n'y a qu'une chose que le texte nous semble nous amener, c'est qu'Abraham savait la direction, mais ne connaissait pas tout dans cette direction-là. Dieu, dans le texte, lorsqu'on regarde plus précisément dans la profondeur du texte, on découvre que quand Dieu va dire « Va-t'en de ton pays », c'est un endroit précis, mais en même temps, tu ne connais pas tout de cet endroit précis. En fait, Abraham n'avait pas visité avant Canaan, c'était pas, il connaissait pas tout, puis il savait pas tout, puis de tout ça. Mais en fait, alléluia, notre vision à ce moment-là et la vision d'Abraham, ce que Dieu est en train de lui dire, c'est « Abraham, si t'es prêt à renoncer, la vision va s'élargir dans ton cœur au fur et à mesure que tu vas y marcher. » Que si tu es prêt à renoncer, c'est le départ, si t'es prêt à quitter Charan, si t'es prêt à abandonner certaines choses que je te demande à l'intérieur de ta vie, à ce moment-là, Dieu est celui, alléluia, qui va te conduire et va élargir ta vision. J'aimerais nous dire que le renoncement nous amène à élargir notre vision. Souvent, on aimerait avoir le contraire. Souvent, on aimerait que notre vision soit large et on ait l'impression que plus notre vision est large, plus ça sera facile à renoncer. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. La réalité, alléluia, c'est que il y a seulement la dimension de dire « Seigneur, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que, Seigneur, est-ce que je veux remettre vraiment toute chose entre tes mains? Renoncer et remettre entre tes mains toute chose. » Et alléluia, Abraham va devoir quitter, sans nécessairement tout savoir, mais devra quitter sans nécessairement tout avoir non plus. À ce moment-là, Dieu parle et dit à Abraham, « Va-t'en dans ce pays-là que je te montrerai. Et là, je vais élargir, je vais entreprendre, je vais agir. Mais pourtant, alléluia, là qui va être à ta postérité, à tes enfants. » Mais la réalité, c'est ceci dans la vie d'Abraham à ce moment-là. Ça dit au verset 4, « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. » Le verset 17, Abraham et Lot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant. Son nom n'était même pas encore changé entre Abraham et Abraham. Son nom était encore, son nom n'avait pas été changé. Il n'y avait pas encore de H à l'intérieur de son nom. Son nom était toujours le même, il n'y avait pas d'enfant. Et à ce moment-là, au verset chapitre 17 de Genèse 17, ça dit, Abraham tomba sur sa face à la promesse que Dieu va lui faire. Ça dit, il rit, il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah était âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Ce qu'Abraham est à dire, et lorsqu'on fait le calcul, il y a combien d'années qui se sont séparées? 25 ans. 25 ans où Abraham va vivre dans la dimension de ce qu'il n'est pas encore. Il va même être dans la terre promise. Des fois, on a l'impression qu'on va être prêt à renoncer quand on va tout avoir, qu'on va être plus prêt à obéir quand on aura plus. Mais c'est une fausse dimension. L'obéissance n'est pas à la lumière, ou le renoncement n'est pas à la lumière de tout ce que nous possédons, mais plutôt, alléluia, dans une dimension de décision à l'intérieur de nos cœurs. Ce n'est pas tout ce qui fait que l'on a, que l'on devient quelque chose. Ça peut être une réalité, mais souvent ce que Dieu veut faire, et dans le cœur d'Abraham, c'était ça. Abraham, il n'est pas devenu, Charan n'est pas devenu trop petit pour sa famille, puis il faut trouver un autre pays. Ma génération, ma généalogie est devenue comme le sable de la mer, alors comme les étoiles du ciel. Donc, à ce moment-là, je vais devoir aller dans un autre pays. Non. Dieu va l'amener, lui, Lot, sa famille, son épouse. Pourtant, son nom n'est pas changé et il n'y a pas encore d'enfant avec Sarah. Ça dit au verset Genèse, chapitre 21, verset 5, Abraham était âgé de 100 ans et à la naissance d'Isaac, son fils. Le verset 21, 1, ça dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et là, le texte dit, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Comprenons bien ceci ce matin de ce que je veux amener. Le renoncement n'est pas toujours dans le temps de ce qu'on pense que c'est le temps. Le renoncement peut être bien avant l'accomplissement de la promesse elle-même. L'accomplissement va venir bien souvent après le renoncement. Et dans la vie d'Abraham, il y a eu 25 ans. 25 ans, là. C'est 25 ans. C'est long. Tu dis, Seigneur, tu l'as promis, ça fait tellement d'années. Il y a tellement de découragement, il y a tellement de choses qui peuvent prendre place. Mais le texte nous donne une vérité tellement importante que j'aime que Dieu révèle dans le texte de Genèse 21:1. Ça dit, au temps fixé dont Dieu lui avait parler. Au temps fixé. Et là, ici, le mot fixé, c'est l'endroit, c'est l'agenda, c'est ce qui a été écrit dans la journée même de ce que Dieu avait planifié. J'aime dire maintenant, j'étais longtemps, je disais, puis c'est correct de dire ça, que Dieu est souvent à la dernière minute. J'ai commencé à dire pour ma vie, alléluia, que Dieu est toujours au bon moment. J'ai souvent, moi, l'impression que Dieu est à la dernière minute. Puis, pour être honnête avec vous, j'ai bien souvent l'impression qu'il est en retard. Parce que ça aurait fait longtemps que j'aurais voulu qu'il le fasse, moi. Mais semble que j'aurais voulu, avoir été à la place d'Abraham, j'aurais aimé qu'il me dise que je vais avoir un fils, puis que là, mettons, je commence à préparer mon stock, puis d'un coup, Sarah vient me voir et me dit, « Chérie, je suis enceinte! » Ça a pris 25 ans. Mais c'était au temps fixé de Dieu. L'abandon, je vais vous dire ceci, n'est pas d'abord et avant tout un échange avec la promesse. Je vais vous dire ceci, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'a pas été un échange. Ça a été la satisfaction pour le pardon de nos péchés. Le sacrifice de Christ n'a pas été « je vais te donner ma vie pour échanger quelque chose parce que, et là, Père, tu vas me devoir quelque chose que tu vas devoir faire envers ce que j'aime. » Non, non. Jésus-Christ n'a pas accompli un échange avec son Père. Il a fait, il a offert un sacrifice, il a donné, et le sacrifice, alléluia, amenait la bénédiction et l'accomplissement, alléluia, du pardon de nos péchés. Et à ce moment-là, au temps fixé, au signal donné, le moment, alléluia, où le sifflet de Dieu s'est fait entendre, Sarah est devenue enceinte. Sarah, alléluia, pouvait enfanter. Ce n'était pas ni la possibilité humaine, ni les conditions humaines, mais la puissance de Dieu qui a pris place. Et frères et sœurs, nous devons être prêts à donner à Dieu. Cela a été vrai pour le départ de Sarah, mais ça a été aussi vrai pour son fils, Isaac. Ça dit dans Genèse, chapitre 24, verset 2, ça dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je vais te dire d'être prêt à sacrifier, à remettre ton fils. Et là, il n'y a pas juste une dimension d'une personne qu'on aime. Il y a toute la dimension de la promesse. Il y a toute la dimension de ce que Dieu avait promis dans la vie de cet homme. Et là, alléluia, le Seigneur l'amène à être prêt à sacrifier. On veut tous voir la montagne comme la personne de Dieu, comme le Yahweh Jiré. Mais souvent, le Yahweh Jiré, alléluia, prend place quand nous sommes prêts à renoncer, à sacrifier et à abandonner. Nous, souvent, on transfère le contraire. On est prêt à donner, alléluia, quand Dieu a déjà donné. Et c'est majoritairement ce que Dieu fait. C'est souvent même ce que nous faisons, et c'est correct, dans la dimension où Dieu nous demande de le faire. Mais il y a des fois, et peut-être ici aujourd'hui, et Dieu demande un renoncement à l'intérieur de ta vie, de quelque chose à l'intérieur de ton cœur, qui n'est pas facile, et qu'on remet à demain, qu'on remet à plus tard. Mais la réalité, c'est celui qui est là. Dieu est possible de nous demander certaines dimensions à l'intérieur de nos vies. Deuxième chose que je veux partager ce matin. Alors, pour nous amener dans la terre promise, de nous amener dans ce que Dieu a pour nous, pour élargir notre vision, nous avons besoin de renoncer. Mais non seulement cela, mais Abraham a dû marcher dans l'obéissance. C'est une chose de dire que Dieu a pour lui et sa famille la terre promise. Mais si Abraham ne part pas, il arrive quoi? Si Abraham n'est pas prêt à quitter, il ne quitte pas Charan. Ah oui, Seigneur, quelle merveilleuse promesse que d'avoir Canaan. Mais on ne quitte pas Charan. On n'obéit pas à ce que Dieu nous demande. Vous savez ceci, si on a désir dans nos cœurs, que Dieu parle dans nos cœurs, il est possible que quelquefois Dieu te parle ou nous parle, pas juste dans la dimension qu'on soit béni, encouragé, fortifié, mais c'est possible qu'un jour ou un autre, il nous demande d'obéir, de marcher dans l'obéissance. Entendre, et cela, avant même d'entendre, il doit y avoir dans nos cœurs un désir d'obéir. Il doit y avoir dans nos cœurs une dimension de vouloir marcher dans l'obéissance, l'obéissance dans les principes, les préceptes, l'obéissance à Dieu, dans la parole de Dieu, dans ce qu'il va déclarer. Abraham était un homme, et ce qui m'impressionne de la vie de cet homme, c'est que cet homme-là a dans les deux reprises de sa vie, ça n'a pas été un homme parfait, mais dans les deux reprises de sa vie, c'est l'engagement ou l'obéissance avec promptitude dans laquelle il va le faire. En Genèse chapitre 2, verset 1, l'Éternel dit, « Va-t'en de ton pays. » Le verset 5 dit, à ce moment-là, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, son fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et ses serviteurs qu'il avait acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Quand Dieu lui a dit, il a mis une chose en place pour obéir. Il semble pas y avoir, en tout cas je lis pas dans le texte, un sens de contestation à l'obéissance. Mais plutôt, alléluia, dans Seigneur, je vais le faire, je vais l'accomplir. Ce qui me fait dire ceci, c'est que l'obéissance devrait venir un principe de vie, de notre façon de vivre avec Dieu. Seigneur, tu me demandes de le faire, je vais le faire. Je comprends pas tout, j'ai besoin de renoncer, mais je vais le faire parce que tu me demandes de le faire. Ce texte dit dans Genèse chapitre 2, le verset 2, 22, pardon, le verset 2, c'est Dieu, c'est dit, on l'a lu tantôt, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va, attends au pays de Morija et offre-le en holocauste sur la montagne, sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset 3, Abraham se leva de bon matin. Il me semble que moi, ça aurait été le matin que j'aurais voulu dormir le plus longtemps. C'est la journée, me semble, que d'être au lit, ça aurait été une bonne journée. Le texte dit que Dieu lui a demandé de bon matin, il s'est levé pour aller. Le désir de l'obéissance, et bien sûr l'obéissance, il y a la foi. Il y a cette foi-là. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, ça dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Souvent, nous, on lit la foi, la guérison, et tout ça, c'est tout vrai. OK, la guérison, la délivrance, la restauration, le pourvoir à nos besoins. Et si la foi devenait la base de notre obéissance? Seigneur, je vais le faire parce que j'ai la foi que si tu me demandes, tu es contrôle de tout, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Et je vais te faire confiance et la foi, je vais avoir cette foi-là. Dans un autre texte par rapport à Isaac, Abraham croyait que Dieu pouvait même ressusciter Isaac. Abraham est celui, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. L'obéissance nous amène à une action, nous amène à un accomplissement. Alors, lorsqu'il est parti, il est parti par la foi. Je m'en vais dans un pays, pas d'abord et avant tout pour moi. J'ai l'impression dans ma pensée à moi que Charan suffisait bien à Abraham. C'était l'endroit probablement où il était bien. C'était probablement l'endroit où il était probablement heureux. J'entends nulle part parler que Charan, Abraham était malheureux à cet endroit-là. Mais il est parti par la foi. Par la foi de quoi? Par la foi de croire que Dieu avait une volonté pour sa vie, avec une foi de croire que Dieu lui donnerait une postérité et qu'un jour sa postérité, aussi nombreuse qu'elle serait, de ce que Dieu avait déclaré, serait dans ce pays que ses yeux ont vu, que ses pieds ont marché, que sa vision s'est élargie. Je ne sais pas si lorsqu'Abraham marchait dans le pays, ou encore qui était peut-être sur un lieu plus élevé et voyait le lieu qui était là. Et à ce moment-là, lorsqu'Abraham, je ne sais pas si dans le cœur d'Abraham, sa foi lui donnait de voir ces milliers qui sortiraient, alléluia, d'Isaac, son fils, des générations. S'il pouvait visuellement, c'est-à-dire dans son cœur, pas de ses yeux physiques, mais de son cœur voir un jour le pays dans lequel je suis en train de marcher, alléluia, des milliers, des centaines de milliers de personnes y marcheront, alléluia, et ça sera de ma descendance. Ça sera le peuple dans lequel Dieu se sera formé à travers mon obéissance. L'obéissance nous donne de voir, alléluia, avec la foi, ce que l'œil humain, ce que le cœur, ce que sans la foi et l'obéissance ne nous donnerait pas de voir. Ça dit, alléluia, qu'à ce moment-là, dans le Genèse chapitre 12, 2, ça dit, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Ça dit, alléluia, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Wow! Dans le chapitre, Genèse 12, le verset 7, ça dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu va parler à Abraham, va dire, « Je veux juste faire remarquer que son nom n'est pas encore changé, mais la promesse est donnée. Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit un autel là, croyant que maintenant, alléluia, c'était vrai. Qu'il avait cette foi de ce que Dieu était pour entreprendre. Mais bien sûr, la foi et l'obéissance sans action, et en fait, la foi et l'obéissance doivent nous amener à faire ce que Dieu veut nous amener à faire. Hébreux chapitre 8, 11, verset 8, on l'a lu tantôt, ça dit que c'est par la foi qu'il obéit et qu'il partit. L'obéissance l'a amené dans une action. Pas à faire n'importe quoi, mais à faire ce que Dieu lui demandait de faire. La foi et l'obéissance font partie, alléluia, de la vie de cet homme pour élargir et amener à voir le pays, la terre promise. Il va faire ce que Dieu va demander. Il va accomplir ce que Dieu va lui demander de faire. L'obéissance me fait voir ce que j'ai cru. Regardez bien. À penser celle-ci à cet instant. La foi me donne de voir ce que l'œil ne voit pas. Mais l'obéissance me donne de voir ce que la foi m'avait déjà permis de voir. Abraham est parti par la foi, mais l'obéissance lui a donné de voir la terre promise de ses yeux. Je veux voir par la foi, mais je veux voir l'accomplissement de Dieu. Je veux voir l'action de Dieu. Je veux avoir la vision de Dieu, mais je veux voir l'accomplissement de Dieu. Abraham ne verra pas ses générations comme le sable de la mer ou les étoiles, mais il va voir le pays, alléluia, dans lequel Dieu était pour amener les générations futures. Et c'est ce que l'obéissance nous donne de voir. Ça dit, l'Éternel se souvint. S'est souvenu Dieu, s'est souvenu. Genèse 21:1. Dieu s'est souvenu. Et le moment Abraham a vu, il a vu deux choses principales. Il en a vu plus, mais je vais juste en mentionner deux rapidement. Premièrement, il a vu la terre promise pour ses générations. Deuxièmement, il a vu, alléluia, le Fils qui habiterait cette terre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il est parti, il a abandonné, il a laissé derrière lui, et qu'il a obéi, alléluia, il a vu la terre, mais il a vu aussi son fils Isaac. Il a vu ce que Dieu était en train d'accomplir et de faire. Et ça a été vrai aussi dans le sacrifice d'Isaac. Abraham est parti, il s'est levé de bon matin, il est allé à l'endroit, il est venu pour offrir Isaac, son fils, et Dieu lui a dit à ce moment-là de pas le faire. Il dit, je sais maintenant que tu es prêt à donner ce que tu aimes, le plus que tu es prêt à remettre entre mes mains. Et à ce moment-là, le texte dit, alléluia, que Abraham a vu le sacrifice que Dieu avait pourvu. De ce que Abraham avait dit à Isaac, son fils, en montant. Quand Isaac va lui dire, vous pourrez lire l'histoire dans Genèse, ça dit à ce moment-là, alléluia, que dans le texte, ça dit que son fils va lui demander, il y a le feu, il y a le bois, mais où est le sacrifice? Et Abraham va dire cette parole, Dieu se pourvoira lui-même. Et à ce moment-là, alléluia, Abraham et Isaac vont être tous deux devant un autel, offrir le sacrifice de Dieu. Mais ce qui les a amenés là, c'est l'obéissance. Je vais vous dire, parents dans cette église, que une des choses qui sera important et marquant dans la vie de vos enfants ne sera pas de ce que vous êtes parfait ou non, mais votre désir de plaire et d'obéir à Dieu. Et à travers ça, Abraham va voir le sacrifice de Dieu, va voir l'impact. En fait, élargir une vision, ça nous amène beaucoup plus loin qu'un instant, qu'un moment. Ça dit ceci dans le texte, ça dit Genèse chapitre 24, verset 1. Abraham maintenant est âgé et Isaac est devenu un jeune homme. Il va envoyer pour aller chercher dans le contexte dans lequel on se retrouve. Abraham va envoyer un de ses serviteurs pour aller voir pour une épouse, pour Isaac. Comment les jeunes sont contents de dire que c'est pas de même que ça se passe aujourd'hui. Mais c'était la façon de faire, et Abraham va prendre une promesse, une action, un engagement à l'un de ses serviteurs pour aller chercher une épouse à Isaac. Et voyez dans le texte dans lequel c'est en train de dire, là, il dit, tu vas aller chercher, tu vas l'amener ici. Il n'est pas question qu'Isaac parte, puis s'en aller pour aller voir et d'habiter à cet endroit-là. Regardez le serviteur, ce qu'il va dire. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. La bénédiction de Dieu était sur sa vie. Et ça dit, verset 24, toute la dimension, chapitre 24, verset 5, pardon, ça dit, le serviteur lui répondit, bon, il est en train de, Abraham lui a dit comment il était pour aller le voir pour l'épouse d'Isaac, et là, ça dit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci, devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Je pense pas, en tout cas, dans le texte, il y a vraiment une dimension que là, il est en train d'amener dans un futur. Rappelons-nous ceci, Dieu avait envoyé Abraham pour lui et pour les générations futures. Et là, le serviteur sait qu'il a besoin d'aller chercher une épouse pour Isaac. Et là, dans sa tête à lui, il y a une dimension de peut-être, de toute bien, de je sais pas. En vas-tu vouloir venir? Je sais pas si elle connaissait Isaac. Le texte révèle pas tout ça, là. Mais là, il est en train de dire à Abraham, il y a peut-être une difficulté qui peut arriver, là. Je sais pas si, mais je suis souvent de même, moi. Quand je vois quelque chose, il y a des idées qui me viennent de peut-être ça marchera pas, puis il va peut-être avoir du trouble. Et le serviteur d'Abraham, c'est ce qui est en train de prendre place. Il dit, ouais, mais là, tu m'envoies chercher une épouse, mais ici, elle dit, je veux pas y aller. Je fais quoi, là? Est-ce que je dis, elle demande à Isaac de venir? Puis Abraham va dire ceci. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Savez-vous ce qu'Abraham est en train de dire? J'ai eu une promesse. Et la promesse, c'est pas juste pour moi. C'est pour le futur. C'est pour un peuple. C'est pour mes enfants. C'est pour les gens qui m'entourent. C'est pour la personne qui est là. Il dit au serviteur, garde-toi de faire autre chose de ce que Dieu nous a dit. La terre d'Isaac, elle est celle qui est ici. La promesse d'Isaac est ici. Et on n'ira pas dans autre chose. On va obéir. On va faire ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Et le texte dit, dans le texte qu'on a lu ensemble, ça dit de la patrie qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays, lui-même enverra son ange devant toi. C'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. En fait, alléluia, Abraham croyait que la vision qu'il était en train, que Dieu avait élargie dans sa vie, que la vision qui était avait maintenant un impact tel que ça aurait un impact sur la vie de son fils et les générations futures. Savez-vous ce qu'Abraham est aussi en train de dire? Il est en train de dire, je n'ai pas obéi, alléluia, je n'ai pas renoncé pour que la promesse ne soit que pour un temps, pour que la vision se referme, pour que le plan de Dieu se referme. J'ai, alléluia, j'ai renoncé, j'ai obéi, afin que la vision de Dieu puisse s'élargir. Et dans mon cœur à moi, je crois sincèrement que dans la personne, dans la pensée même d'Abraham, le fait qu'Isaac était maintenant son fils, qui, dans sa tête à lui, la promesse n'était pas terminée. Il y avait comme le sable de la mer, comme les ciels, les étoiles du ciel. Et ça, c'est pas à Charan. C'est pas dans le pays de mon père, de ma mère. Et je veux aller plus loin. Le texte le révèle pas, on n'est pas sûr dans ce que je vais dire. Mais s'il y a 60 ans qui s'écoulent, entre la mort de Térakh et le moment où Abraham est parti, il y a 25 ans qui s'écoulent entre la promesse et la naissance d'Isaac. Il est possible que quand le serviteur est retourné à Charan, Térakh n'était même pas mort. C'est pas sûr. Il est 60 ans. Il est très possible. Alors Abraham voulait être sûr que, alléluia, ce dans quoi ils étaient. On veut pas revivre dans la promesse de ce qui était bien pour mon père. Je veux vivre, alléluia, dans la promesse et la vision de ce que Dieu a donné à moi et à ma famille. On peut comprendre pour lequel le serviteur est en train de dire. C'est possible, c'est pas sûr, le texte ne se révèle pas clairement. Mais quand on fait des calculs, on peut y penser. C'est-à-dire, écoute, ton père est encore là-bas. Est-ce qu'il serait possible que ton fils pourrait retourner à Charan? Et Abraham dit non. Garde-toi. Garde-toi parce que nous voulons entrer dans ce que Dieu a pour nous. Je veux dire ceci. Ici, vous pouvez, si on peut juste retenir même ceci de la prédication de ce matin, c'est important. Notre désobéissance et notre obéissance a des impacts dans nos vies futures. On pense que des fois, la désobéissance n'a qu'un instant, un moment, un impact dans un moment précis. Mais souvent, parce qu'on a vécu dans ce que la chair voulait nous donner de faire, d'accomplir ou de simplement saisir, on se retrouve dans l'après avec des impacts à l'intérieur de nos vies. Jeune homme, jeune fille de cette Église, j'aimerais vous dire ce matin, alléluia, que votre obéissance à Dieu, alléluia, vous donne de vivre et d'entrer, alléluia, soit dans votre terre promise ou de rester à Charan. Hommes et femmes de cette Église, notre obéissance, alléluia, ou notre désobéissance n'a pas un impact seulement dans un moment présent, mais a un impact dans un moment futur. Et je pourrais vous sortir des dizaines de textes dans la parole d'hommes et de femmes qui parlent de qui nous donnent de voir ça. Cela a été vrai pour Saül. C'était vrai pour d'autres hommes. C'était vrai pour Lot. J'aimerais vous dire que le choix de Lot, de la terre qui semblait être tellement miraculeuse et donner toute l'abondance, l'a amené à perdre son épouse et avoir un impact de tout perdre autour de lui. Ta vie, notre vie, ma vie, notre obéissance a un impact non seulement sur le moment présent. Peut-être que tu marches, tu dis aujourd'hui, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes. Je vais vivre d'après les principes de ta parole, devant les principes que tu me demandes. Et Seigneur, alléluia, à travers ça, tu peux penser que c'est seulement un moment, c'est seulement aujourd'hui. Et je veux te dire ceci, alléluia, que le texte d'Abraham ici nous prouve que l'obéissance de cet homme va avoir un impact dans la vie de ses propres enfants, beaucoup plus large et beaucoup plus loin que sa propre vie-là. Des fois, on a l'impression de ce que Dieu, on veut que tu entreprennes, on veut que tu agisses, on veut que tu... Mais de vivre à la lumière de ce que Dieu nous demande de vivre. Vivez les choses comme Dieu vous demande de vivre. Jeune homme, jeune fille, homme, femme de cette Église. Vivons-le comme Dieu veut qu'on le vive, avec obéissance, avec renoncement, en saisissant ce que Dieu avait pour nous. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Vous savez ceci? Lorsqu'on est prêt à saisir ce que Dieu a pour nous, à entrer dans ce que Dieu a pour nous. Quand on est prêt à renoncer, c'est à ce moment-là, alléluia, que Dieu est celui qui va entreprendre. Le texte dit, on a une pensée qui est dans la fin du verset 1 de Genèse 12, ça dit, dans le pays que je te montrerai. Le pays pour lequel Abraham a quitté et ne voyait pas, c'est devenu le pays qu'il a vu. Dans le verset 7 du même texte, ça dit que l'Éternel a apparu à Abraham. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui était apparu. Il y a quelque chose qui m'impacte et qui m'impressionne. Là où Abraham marchait, Dieu était avec lui. J'aimerais nous poser la question ce matin. Est-ce que là où on marche dans nos vies, Dieu se démontre comme celui qui est là et qu'on est pleinement dans la pleine volonté de Dieu? Être là sans que Dieu y soit, ça donne quoi d'y être? Être dans les promesses de vivre des belles choses, je ne suis pas en train de dire que de vivre dans la chair, c'est toujours triste. Le plus triste, c'est pas tout ce que l'on vit, mais c'est que Dieu n'y soit pas. Et ce que Dieu nous demande, alléluia, c'est d'être capable de marcher. Dieu veut marcher avec nous à chaque jour. Et de marcher dans le renoncement et l'obéissance. Vous jouez le dernier chant que vous aviez ce matin, je pense que vous aviez un autre chant, Dan. Alors, on pourrait le chanter. Ça terminait. Et le texte dit qu'à ce moment-là, Dieu était avec lui. Et j'aimerais nous dire ceci en terminant, alléluia, que je jouais doucement au piano. La terre promise est devenue une terre d'appartenance. L'obéissance et le renoncement ont fait que la terre de promise est devenue une terre d'appartenance. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'ai pas juste le goût de vivre dans la promesse. J'ai le goût d'en faire mienne. J'ai le goût qu'elle devienne mienne. Je n'ai pas juste le goût d'entendre parler, alléluia, de la terre promise. Je veux qu'elle devienne ma terre. Je ne veux pas juste entendre parler de l'éternité puis de ce qu'un jour on va être avec Dieu pour l'éternité. J'ai envie que cette terre devienne mienne. La terre promise est devenue la terre que Dieu a voulu donner à Abraham. Mais Abraham, par le renoncement et l'obéissance, a été la main qui lui a donné de la saisir, cette terre qui est devenue sienne. Est-ce que nous voulons vivre dans les promesses? Ou est-ce que nous voulons vivre, alléluia, dans ce qui est devenu nôtre? À la montagne de Dieu, alléluia, dans Genèse 22, 14, ça dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh ou Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. Je dis ceci en terminant ce matin. La montagne du sacrifice est devenue la montagne du Yahweh Jireh. Par le renoncement et l'obéissance, c'est devenu, alléluia, la montagne du Yahweh Jireh. La terre promise est devenue sienne, mais la montagne, alléluia, l'endroit, le mont sur lequel il a offert Isaac, est devenu l'endroit, alléluia, où l'on dit encore aujourd'hui, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Et j'aime beaucoup cette image d'Abraham, Isaac, alléluia, qui sont là à la montagne du Yahweh Jireh pour offrir ce que Dieu avait donné. Lorsqu'on lit tout le texte de ce sacrifice-là, ils n'avaient pas vu une bête qui était prise dans un buisson. Une bête qui est prise, là, ça se débat. Mais au moment, alléluia, Abraham a fait tout ce que Dieu lui avait demandé, avec obéissance et renoncement. Et à ce moment-là, alléluia, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Je veux juste nous dire à chacun d'entre nous ce matin, je ne ferai pas d'appel en avant-main, mais plutôt un appel à sonder nos cœurs. Si tu veux que Dieu élargisse ta vision aujourd'hui, si tu veux que Dieu élargisse à plus large, tu dois d'abord, je dois d'abord, être prêt à renoncer et à obéir. Il y aura des choses que tu auras besoin de renoncer, pas parce que ça sera pour toi, mais parce que Dieu te demande, et pour le bien, alléluia, de ce qui est futur, de ce qui est devant toi. Et tu auras besoin d'obéir à ce que Dieu te demandera. Parce qu'en fait, on fait juste lui obéir parce qu'on l'aime. Jean chapitre 15, 14 dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » 14, 21 dit ceci, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ton obéissance, notre obéissance et notre renoncement, on ne le fait pas pour être sauvé. Le salut, c'est par grâce, par Jésus-Christ, Mais l'obéissance, alléluia, et le renoncement nous donnent d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? On va juste chanter ce chant, alléluia, ce matin, qui nous parle de « Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi », qu'on puisse le faire juste en terminant aujourd'hui comme une dimension de reconnaissance et de dire « Seigneur, je veux prendre la décision aujourd'hui de t'obéir et de renoncer avant même quoi que ce soit. Je vais être prêt, Seigneur, à le faire. » Alléluia. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, chantons-le avec foi ce matin. Donne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus, chantons-le. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, alléluia. Seigneur, prends toutes choses. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Oh, alléluia. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, oh, alléluia. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, oh, alléluia. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Seigneur, on veut apprendre à remettre toutes choses entre tes mains à chaque jour et à chaque instant. Seigneur, donne-nous ce désir, ou plutôt cette volonté d'être prêt à renoncer, à remettre entre tes mains, Seigneur, pour être capable de suivre ce que toi tu veux, ce que toi tu as pour nos vies, Seigneur. Ce que toi, tu désires, Seigneur, pour nos propres vies. Et que Dieu, tu sois glorifié. Seigneur, qu'il y ait cette volonté dans nos cœurs de marcher avec obéissance dans chaque situation de nos vies. Que dans chaque chose qui prenne place dans nos familles, dans nos vies personnelles, dans cette église, oh Dieu, à notre travail, prends-nous, Seigneur, à vouloir marcher avec obéissance et avec foi. Et de te croire, Seigneur, de te faire confiance en toutes choses. Seigneur, donne-nous ce cœur qu'Abraham avait d'un désir de t'obéir, d'un désir de renoncement, de remettre entre tes mains, Seigneur, de ne pas refuser. Dieu, tu vas dire à Abraham qu'il n'a pas refusé son fils, qu'il ne t'a pas refusé, Seigneur, son fils. Donne-nous de rien te refuser, Seigneur. D'être prêt à renoncer à toute chose, à remettre entre tes mains toute chose, Seigneur. Et qu'à travers ça, ton nom soit glorifié et exalté. Rends-nous capables, Saint-Esprit, de le faire. Je le prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, puisses-tu nous garder sur le chemin du retour. Nous remettons nos vies entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. On veut vous souhaiter une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été là ce matin. Alléluia. Dieu vous bénisse.